Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
On va parler des forteresses. Et on va voir qu'en fait, ce mot-là a trois sens dans la parole de Dieu. Trois sens qui vont particulièrement nous intéresser. Et qui vont nous concerner. Donc, il va y avoir trois sortes, entre guillemets, de forteresses. Trois sens. Mais d'abord, on va juste lire un texte qu'on reprendra après. Qui est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. On reprendra ce texte dans un des exemples de forteresse, versets 4 et 5. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser les forteresses, verset 4. Nous renversons les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la disons, deuxième partie du verset 4 où il y a de ce mot forteresse. Nous renversons les forteresses. Mais je sais que parfois, dans d'autres traductions, c'est un peu différent. Mais l'idée est là. Nous verrons que Dieu aussi est une forteresse. Et nous verrons aussi que nous avons affaire à des forteresses dans nos vies. En fait, ce mot forteresse a plusieurs sens. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Une forteresse, c'est l'image en fait, d'un lieu qui a été ce qu'on appelle fortifié, renforcé. C'est comme une maison, si vous voulez, mais dans laquelle on a construit des murs qui sont très très hauts, très épais. Et la forteresse a plusieurs choses. D'abord, c'est un lieu qui est considéré comme difficile à prendre. C'est-à-dire que quand on a une forteresse devant soi, en Europe, il y a ce qu'on appelle les châteaux forts. En fait, c'était des constructions où il y avait quasiment une ville entière qui habitait à l'intérieur. Et tout autour, on avait mis des murs extrêmement épais, extrêmement hauts. Et dans toutes les nations qui ont un passé, je dirais, où il y a eu des constructions, vous trouverez ça par exemple en Israël, où il y avait des villes dites fortifiées. C'est-à-dire qu'on avait construit des murs tout autour pour empêcher que ces villes soient prises facilement. Alors d'abord, la première idée dans ce mot forteresse, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à prendre. Quand il y avait des ennemis tout autour, ils devaient utiliser des techniques pour essayer de s'emparer de cette forteresse. C'est-à-dire de pouvoir passer au travers de ces murs qui étaient soit épais ou soit il y avait des choses tout autour qui empêchaient de pouvoir faire tomber les murs. Mais une forteresse aussi, c'était là où on mettait certains prisonniers. Par exemple, Paul a été dans une forteresse comme ça. Quand il s'est fait arrêter, on l'a pris et on l'a mis dans une prison. C'était pas Mpimba. Mimba.
Excusez-moi, mon accent. On dit souvent que je parle qui quand j'essaye de parler Kirundi, que je parle avec un accent très français.
Et
quand on parle de Mimba,
mugiye bavuga rero mpimba.
Eh bien en fait on sait que c'est une prison dont il est difficile de sortir.
Aho rero cyumva yuko ari bohero rigoye kuvamwo.
Et en fait l'idée de la forteresse
c'était
souvent quand on mettait les gens en prison
et
vraiment ils ne pouvaient pas en sortir.
C'était
une prison pour
eux.
Mais aussi la troisième idée d'une forteresse
ça
va être un lieu de refuge,
un
lieu où quand il y a des difficultés
on
s'y met.
Et
alors,
rero,
nous savons que nous sommes protégés.
Et on
va regarder ces trois idées dans la parole.
Parce
que ce mot forteresse
jambo,
comporte ces trois idées.
Akarimbi, akobise, akarimbi, gafise, ibice bitatu, nakarimbi, nubuhungiro, hamwe ni, nahantu toshika.
La première idée qu'on aura,
c'est
bien sûr dans Josué chapitre
6. C'est
un passage que vous connaissez,
j'espère.
Sinon, demandez pardon au Seigneur si vous ne connaissez pas ce passage, hein, si vous ne lisez pas votre Bible. Josué chapitre
6.
Là, c'est un moment particulier dans le livre de
Josué.
Les Israélites vont passer un moment très particulier. Pour raccourcir l'histoire, Dieu fait sortir son peuple
d'Égypte.
L'Égypte, c'est l'image du monde.
Égypte, c'est l'image du monde.
Quand on parle de l'Égypte, pour nous les chrétiens, c'est l'image en fait des gens qui ne sont pas encore
sauvés.
Israël était esclave.
Israël
esclave du péché. Esclave de Pharaon. Esclave de tout. C'est l'image des inconvertis. Dieu sort son peuple de l'esclavage, de la domination de Pharaon. Pharaon, bien sûr, est l'image du diable.
C'est
un type, ce qu'on appelle. Et en fait, Dieu, par un grand miracle,
fait
sortir son peuple. Et son peuple, donc, va traverser la mer Rouge.
Va
se retrouver dans le désert, nous le savons.
Le
désert, c'est l'image
du
peuple de Dieu qui vit au jour le jour. Il a juste assez. Mais il n'est pas vraiment heureux parce qu'il n'est pas dans le pays promis. Il
n'est
pas dans l'héritage. Et l'image du désert, c'est l'image des chrétiens qui n'ont pas encore découvert qu'ils sont héritiers en
Jésus-Christ.
Donc en fait, vous pouvez être sorti du monde, c'est-à-dire sorti de l'esclavage de Satan. Vos péchés sont pardonnés. La mer Rouge s'est ouverte.
Vous
arrivez donc vers le pays promis, mais vous êtes encore dans le désert.
Ça, c'est
l'image des gens qui viennent d'être sauvés.
Par
la grâce de Dieu.
Ils disent,
oh, merci Seigneur.
Parce
que tu es mon
sauveur. Mais
spirituellement, pour l'instant,
ce sont
encore des bébés. Des bébés en
Christ.
Parce que quand nous naissons de nouveau, la Bible nous
montre
que nous sommes des bébés spirituels. Et ça, c'est une réalité. Et il va falloir grandir. Les Israélites se sont rebellés contre Dieu. Dieu pensait les faire passer le désert entre 3 et 6 mois. Et pour l'instant, ils étaient avec la manne. Dieu faisait pleuvoir la manne du ciel.
C'est-à-dire
qu'en fait,
eh
bien, ils avaient tout juste suffisamment à manger. Mais ils n'étaient pas dans la promesse de Dieu. Dieu avait le pays pour eux. Le territoire d'Israël aujourd'hui. C'était leur héritage. Et ça, c'est l'image du chrétien qui entre dans son héritage. Qui comprend qu'il a un héritage ici sur cette terre. Un héritage spirituel. C'est ça, entrer dans le pays promis.
C'est
commencer à découvrir
atangura gutahura.
Et ça c'est une nouvelle étape pour les chrétiens nés de nouveau.
Iyo nayo nigenze ntabwo koko ba Kristo bavutse ubwa
kabiri. Il y a trop de gens à qui on prêche le salut.
Ari abantu benshi usanga babwira ubutumwa bwiza bwa gakiza.
Ils sont sauvés.
Ugasanga barakijije.
Leurs péchés sont pardonnés.
Ibyaha byabo bigaharirwa.
Dieu les fait naître de nouveau.
Imana ikabavukisha ubwa kabiri. Akabahindura ibyaremwe bishasha.
Leur esprit complètement recréé.
Umwemo yabigahinduka neza.
Mais
ariko
ils ne comprennent pas encore.
Ugasanga ntibaratahura.
Ils ont un héritage.
Yuko bafise iragi.
Et à la fin du chapitre 5 de Josué.
Mumpera y'ikigabane cya gatanu cya Yosua.
Je vous rappelle que le ministère de Josué était un ministère qui succéda à celui de Moïse. Et Dieu, ce qu'il voulait faire avec Josué, c'est amener le peuple dans l'héritage. Dans l'héritage qu'il avait promis. Promesse faite à
Abraham.
Plusieurs siècles avant. Et c'est ce que Josué va faire. Il va prendre la suite du ministère de Moïse par ordonnance divine, bien sûr, en ayant reçu l'onction de la part de Dieu. Dieu va lui donner des conseils au départ de son ministère, de ne pas craindre, parce qu'il est avec lui. Le chant que nous chantons souvent ici,
eh
bien, il vient de ce passage de Josué, au chapitre 1. Et en fait, Dieu va lui dire, c'est toi qui vas amener ce peuple dans l'héritage. Et à la fin du chapitre 5 de Josué, là, ils vont passer par une nouvelle étape. Ils vont passer par une nouvelle étape. Il est dit, au verset 11, ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. Verset 12, regardez bien, la manne cessa le lendemain, et quand ils mangèrent les productions du pays pour les Israélites, il n'y eut plus de manne, et ils mangèrent les productions du pays de Canaan cette année-là. Pendant 40 ans, Ubugari Goussa.
Baje rero ubugari bucumvye muri manua atari ubwinyange.
Akuna sauce, akuna pilipili.
Naso.
Ubugari gusa.
Baje rero ubwo bugari omutsima.
Pendant 40 ans.
Imyaka 40.
Mais là il y avait un changement.
Mugabo ngaho hari cyahindutse.
Ils vont finalement
aho rero
commencer.
Baje batangura
à goûter les produits de l'héritage.
Kurya ivyamwa vyo muri ico gihugu.
Ils vont manger de la viande.
Batangura kurya inyama.
Ils vont manger beaucoup de bonnes choses. En fait, ils vont commencer à entrer dans le pays promis et à profiter de leur héritage. C'était vraiment une nouvelle étape pour les Israélites. Ce peuple qui avait été habitué au juste assez, au jour le jour, d'un seul coup, allait être dans l'abondance. Ils commençaient à entrer dans le pays promis. Ils avaient traversé ce qu'on appelle le Jourdain. Et je vous rappelle que le livre de Josué est souvent mis en parallèle avec l'épître aux Éphésiens, où Paul nous fait un parallèle avec notre héritage en Christ. Nous sommes en
Christ.
Nous avons un héritage. Le pardon des péchés, c'est le début. Mais maintenant, il va falloir grandir.
Et
il y a beaucoup de chrétiens qui restent au lait spirituel. La Bible nous parle dans 1 Pierre 2:2 qu'il est temps de ne plus se nourrir seulement de l'air. Un bébé se nourrit de l'air. 1 Pierre 2:2 nous parle de cela. Il nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Les enfants nouveau-nés spirituels sont ceux qui reçoivent Christ comme leur sauveur personnel. Si tu as reçu Jésus la semaine dernière, dans les derniers films, à l'église ici ces derniers temps,
tu
es encore un bébé spirituel. Et tu en es encore au lait. Au lait de la parole, c'est normal. Mais si tu commences à avoir un an, deux ans, trois ans dans le Seigneur, il est temps pour toi
de commencer à entrer dans ton héritage,
à
goûter les bonnes productions du pays divin. Nous sommes plus des ténèbres, nous sommes dans la lumière. La Bible nous parle de croissance spirituelle. La Bible nous parle de trois états. L'état du bébé spirituel, l'état de l'enfant spirituel, et l'état de l'adulte spirituel. Un bébé, dans le naturel, il dépend à 100% des soins des autres. Si vous prenez un bébé, que vous le mettez quelque part, sans vous en occuper, il va mourir. Parce qu'il n'est pas capable de se nourrir. Spirituellement, c'est la même chose. Les gens, au début, ont beaucoup besoin d'être aidés. Au niveau de la parole de Dieu, au niveau de la prière, au niveau de la foi, on est obligé de les porter. Mais il y a un moment qu'on appelle le sevrage spirituel. C'est-à-dire que comme dans le naturel, un bébé, au bout d'un moment, le lait ne lui suffit plus. Il faut qu'il commence à prendre un peu de nourriture solide. Et à se détacher du sein de sa mère. Et bien, spirituellement parlant, c'est pareil. Au début, nous recevons quasiment tout des autres. Quelqu'un est malade. On est là. Oh, tu peux prier pour moi. Tu pries pour cette personne. C'est un bébé spirituel. Il va guérir. Bon, il y a un bébé spirituel qui a un problème. Souvent, Dieu va donner une prophétie d'encouragement. Ou une parole de connaissance. J'entendais un témoignage il y a quelque temps de quelqu'un qui était malade. Son enfant était malade. Et puis, cette personne était là dans une réunion. Et quelqu'un a donné une parole de connaissance. Et voilà, tu es venu avec ton enfant, il a 3 ans, etc. Et le Seigneur te dit qu'il te guérit. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Parce que le bébé spirituel, il a besoin que Dieu fasse des choses spectaculaires pour lui. Il a besoin d'encouragement régulier de la part des autres. Parce qu'il ne sait pas encore se nourrir spirituellement. Bien sûr, ce qu'on appelle les dons spirituels servent aussi, bien sûr, pour des gens qui sont plus mûrs dans le Seigneur. Mais je dirais que d'une manière générale, le bébé spirituel, il va beaucoup dépendre de ça, de ce que les autres vont lui donner. C'était exactement le problème du peuple d'Israël. Jusqu'à présent, dans le peuple d'Israël, tout leur a été amené sur un plateau. Dieu les avait soutenus d'une façon miraculeuse dans le désert. Mais là, ils vont entrer dans le pays. Et la première fois que Dieu avait voulu les faire entrer dans le pays, c'était 40 ans plus tôt. Et Dieu avait envoyé 12 espions. Moïse a envoyé 12 espions.
Bon.
Et en fait, dans ces 12 espions, il y en a 10 qui sont revenus parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Et ils ont fait une sacrée gaffe. Ils ont monté tout le peuple contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu était obligé de les juger. Et Dieu a dit, cette génération-là, ils n'iront pas dans le pays. Mais là venait le bonjour. Le peuple, là, il n'était pas prêt à recommencer la gaffe de leur...
descendants.
Ils n'étaient pas prêts de recommencer à se rebeller contre Dieu. Par contre, Dieu allait leur demander des choses particulières. Il allait leur demander de prendre possession du pays. Il y avait un passé dans ce territoire. Il y avait un passé dans ce territoire de
Canaan.
Il y avait des villes fortifiées. Il y avait des forteresses. Et une de ces forteresses, c'était bien sûr Jéricho. Et dans le chapitre 6, En fait, nous avons le récit de ce que Dieu va faire au travers de son peuple. Mais le peuple va devoir avoir une certaine foi. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre
Jéricho.
Dieu leur dit, vous prenez cette ville. Et Dieu leur donne la façon de faire pour arriver au succès. Pour qu'ils puissent prendre cette ville. C'était une ville fortifiée. Imprenable. Dans le naturel. Il n'était pas possible de prendre Jéricho. C'était des murs qui étaient énormes. Et les Israélites n'étaient pas une armée équipée. Ni même entraînés. Quand vous avez passé 40 ans dans le désert, vous
n'êtes
pas très fort. Mais ils avaient un Dieu qui lui était fort. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Dans notre vie spirituelle, il va y avoir certaines forteresses à prendre. Il y a certaines choses que le diable a faites ou le péché a fait dans nos vies qui ont des conséquences. Par exemple, si vous êtes malade avant d'être sauvé et que le jour même vous recevez Christ comme votre sauveur personnel, Jésus vous sauve, parfois la guérison se fait en même temps. Il n'y a pas de règle générale. Par contre, parfois, un certain nombre de chrétiens restent avec un certain nombre de maladies. Et ça reste une forteresse. Une forteresse que tu peux abattre. Il y a d'autres cas, par exemple. On peut parler de la pauvreté. La pauvreté reste une forteresse à abattre dans ta vie. Si avant d'être sauvé, il y avait des problèmes de pauvreté, tu es entré dans le pays promis. Tu rentres dans ton héritage et te dis maintenant je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord avec ça. Moi, je ne suis plus d'accord avec ça. Je suis héritier du grand roi. Il m'a donné cet héritage. Et cet héritage va changer mes circonstances. Parce que parfois, nous avons à faire face à des circonstances qui représentent ces forteresses. Et ces forteresses, c'est à nous de les abattre. La Bible nous montre dans Hébreux 11 au verset 30, qu'il va falloir que nous ayons un rôle à jouer par rapport à ça. Dieu nous a donné un héritage en
Christ.
Il nous a donné un héritage. Cet héritage, c'est de pouvoir vivre pour sa gloire. Cet héritage nous montre que le diable n'a plus d'autorité légale sur nous. Les démons n'ont plus d'autorité légale sur nous, sauf si nous le laissons faire. Sauf si nous acceptons un certain nombre de circonstances qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Et ça, ce sont des forteresses. Des forteresses qu'il va falloir abattre. Il y a des choses dans nos vies qui représentent des forteresses. Ça peut être le chômage. Ça peut être l'échec scolaire. Ça peut être tout un tas de choses. Le trouble. La dépression nerveuse, la maladie, tout ce qui peut s'opposer à un épanouissement de la personnalité, tout ce qui peut faire que à chaque fois que tu es dans les jours de ta vie, tu dis non, ça va pas. Ça, c'est quelque chose qui ne va vraiment pas dans ma vie. Ça s'appelle une forteresse. Et il va falloir abattre cette forteresse. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11:30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Ce type de forteresse doit être abattu par ta foi. Et là, il faut que tu connaisses la parole. Si ta forteresse est une maladie qui essaye d'emporter ta vie, tu dois prendre cette décision d'abattre cette forteresse. Ne prie pas en disant Dieu, abat cette forteresse pour moi. Parce que Dieu ne le fera pas. Parce que c'est toi qui dois le faire. C'était aux Israélites
Israélites de prendre possession du pays. C'était à eux de prendre une décision de dire nous obéissons à la parole. Dieu a dit ça nous appartient. Et rappelez-vous, notre héritage nous appartient. Notre héritage nous appartient. La guérison nous appartient. Le baptême du Saint-Esprit nous appartient. Tout nous appartient. La Bible nous dit que tout nous appartient. Mais c'est à nous de le prendre. Et il y a des choses qui sont des forteresses qui sont là et qui te paraissent comme un grand mur. Et il va falloir que tu l'abattes. Tu l'abattras comment? En l'obéissance à la parole de Dieu. En la proclamation de la parole de Dieu. En disant non. Dans cette forteresse, je refuse qu'elle demeure dans ma vie. Elle doit s'abattre. Au nom de Jésus. Si ton Jéricho, c'est la chose dont tu penses maintenant, qui te dérange régulièrement, tu peux l'abattre. Ça t'appartient. Dans la foi.
Amen.
En proclamant la parole.
Et
en disant, je ne suis pas d'accord avec ça.
C'est
une forteresse. Et au nom de Jésus, je veux abattre cette forteresse. Je veux qu'elle tombe dans ma vie. Ça peut être une forteresse du péché. Parce qu'il y a des chrétiens, ils acceptent
Christ.
Le problème, c'est qu'ils restent avec ce péché dans leur vie. Et parfois le péché est une forteresse pour certains chrétiens. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Et à ce moment-là, tu dis non. Je ne peux plus accepter ça. C'est quelque chose que tu vois dans ta vie. Tu aimes le Seigneur, mais à chaque fois, tu retombes dans le même truc. C'est une forteresse. Tu peux l'abattre. Tu peux lier ces choses. Tu peux dire, je ne les accepte plus. Tu abats cette forteresse. Donc c'est quelque chose qui est là devant toi et qui doit tomber. Et tu dois prendre cette décision de voir cette chose tomber dans ta vie. Le deuxième type de forteresse, c'est la prison. 2 Corinthiens chapitre 10, nous l'avons lu tout à l'heure. 2 Corinthiens 10, au verset 4, il dit, Paul donc dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Donc le premier type de forteresse, c'est quelque chose qui est là et qui va contraire à ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Deuxième type de forteresse, c'est 2 Corinthiens 10, verset 4. Et Paul dit, les forteresses, c'est quoi? C'est le diable? Non. Ce sont les démons? Non. Ils ont été dépouillés de leur autorité à la croix. Paul dit ici, les forteresses, c'est les raisonnements, c'est les façons de penser qui s'opposent à la connaissance de Dieu dans la vie des êtres humains. Dans la vie des êtres humains. C'est tout ce qui s'oppose à ce que la connaissance de Dieu puisse avancer dans la vie d'un être humain. La première forteresse de ce type-là, ça s'adresse aux inconvertis. C'est les inconvertis ont des forteresses dans leurs pensées qui les empêchent de recevoir Christ comme sauveur personnel. Et ça, vous devez le savoir. Et ces gens-là doivent renoncer à leur façon de penser quand ils entendent l'évangile pour que la bonne nouvelle de Christ descende de leur tête vers leur cœur. Il y a une forteresse chez les inconvertis. Cette forteresse les empêche de croire. C'est leur façon de penser. Parce qu'ils écoutent le monde. Parce qu'ils écoutent la pensée du monde. Parce qu'ils écoutent le diable. Et quand vous parlez de l'évangile à quelqu'un, que vous voyez que cette personne est hermétique à l'évangile, fermée à l'évangile, eh bien sachez que c'est une forteresse. C'est une façon de penser.
yumvise
dans la, au travers de laquelle cette personne refuse
kandi biciye muri byo umuntu atagomba
délibérément de croire
avyishakiye kwizera
et comme cette personne refuse de croire
kandi kuko umuntu atagomba kwizera
refuse d'accepter la parole
yanse kwakira ijambo ry'Imana
elle ne descend pas dans son cœur
habwo imanuka mu mutima wiwe
ne produit pas la foi du salut
avyiremo kwizera ubwo agakiza
et à ce moment-là cette personne ne pourra pas être
muri icyo gihe uwo muntu ntabwo azoshobora gukiza
et c'est sa responsabilité
kandi ubwo n'uruhara rwiwe
c'est la responsabilité de cette personne
ubwo n'uruhara rw'uwo muntu
de dire oui c'est vrai j'ai appris ça sur Dieu
mais ce
que j'entends là
c'est
ce que je veux
et
à ce moment là cette forteresse tombe la foi est générée
parce
que la parole de Dieu peut descendre dans le cœur dans l'esprit de la personne et ne pas seulement rester dans sa tête ça va produire la foi et
c'est
à ce moment là que cette personne va se tourner vers le Seigneur dire Dieu je suis un pécheur j'ai besoin d'un sauveur j'ai besoin de toi c'est là où elle crie à Dieu
non
pas avec sa tête
mais
avec son cœur
mais
sachez une chose
le
chemin de l'esprit le chemin de l'esprit c'est la tête d'abord nous devons comprendre la Bible nous le dit dans Matthieu
13
où Jésus donne la parabole du semeur quand le semeur sème sa semence
c'est
la parole de Dieu d'abord la personne doit comprendre avec sa tête.
Puis
elle ouvre son cœur, son esprit. Et à ce moment-là, la semence porte son fruit. Donc, une forteresse, dans ce cas-là, c'est les façons de penser. Ça empêchera quelqu'un de connaître Dieu. Ces façons de penser. Moi, je pense ça sur Dieu. Par exemple, une forteresse qu'on voit beaucoup en Europe actuellement, c'est par exemple l'intellectualisme. Les gens disent non, je crois en rien. Moi, je crois que ce que je vois. Et beaucoup de gens raisonnent comme ça. Et s'empêchent de recevoir
Christ.
C'est eux-mêmes qui empêchent. Ils s'empêchent eux-mêmes de recevoir
Christ.
Ça s'applique aussi aux chrétiens. Les mauvaises façons de penser. Il faut que vous compreniez une chose. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau.
Mais
notre personnalité ou notre âme, elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas touchée par l'Esprit de Dieu dans le sens où l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter dans notre âme. Il vient habiter dans notre esprit. Plus notre esprit se développe, plus nous grandissons spirituellement, plus notre âme en a un bénéfice. Mais notre âme, elle a besoin de changer. Et d'ailleurs, la Bible nous le montre. Quand vous regardez Jacques 1:21, la Bible s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Et elle parle, entre guillemets, on prend l'expression entre guillemets, du salut de l'âme. Plus précisément, de la restauration de l'âme. Restaurer quelque chose, c'est quoi ? Si vous achetez une maison qui est vieille, où il y a des trous un peu partout, que ce soit dans le toit, que ce soit dans les murs, si l'électricité est pourrie,
et
bien vous amenez un entrepreneur et vous lui dites voilà, moi je veux faire des travaux dans cette maison, je veux qu'elle soit rénovée. Le fait d'être dans le monde pendant toutes ces années, avant que nous ayons été sauvés, eh bien, ça fait que nous avons eu des façons de penser qui ont été forgées. La pensée du monde nous a envahis quand nous étions inconvertis. La Bible nous montre dans Éphésiens chapitre 2 qu'un inconverti marche comment ? D'abord, il est mort spirituellement. Son esprit est étranger à la vie de Dieu. Et son âme est sujette à la pensée du monde. Aux influences sataniques du monde. Et nous avons eu l'habitude avant d'être né de nouveau,
et
bien de faire les choses du monde, de penser les choses du
monde,
et d'agir sur ses
pensées.
Et notre âme en a été
abîmée.
C'est pour ça que la Bible nous parle de restaurer notre
âme.
Et dans ce passage, la Bible nous montre comment
faire. Il est dit,
c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, ou meilleure traduction, restaurer ou guérir vos âmes, vos personnalités. Donc c'est important de comprendre ce verset. Parce que ce verset s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Et si nous disons que les chrétiens nés de nouveau ont encore besoin d'être sauvés, ce n'est pas scripturaire.
Et
les traductions un peu nous trompent. Ici, le mot grec signifie aussi guérir et restaurer. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nous avons besoin d'être restaurés au niveau de notre personnalité, d'être construit selon la pensée de Dieu.
Et
c'est quelque chose qui est important à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de croyants.
Bon,
ils sont là, ils sont nés de nouveau, ils ont prié dans les églises, et finalement ils ne savent pas trop quoi faire avec les tentations, les mauvaises pensées, ou certaines façons de penser. Et c'est important parce que la Bible nous en parle. Regardez Romains 12. Romains 12 nous en parle aussi. Romains 12, verset 2. Ça, ça nous parle des forteresses des pensées. Quand nous avons des mauvaises façons de penser, c'est-à-dire des façons de penser qui ne sont pas scripturaires, eh bien, nous nous enfermons nous-mêmes dans une forteresse. Nous nous mettons nous-mêmes dans une prison. C'est ce que nous faisons. Quand nous avons des mauvaises façons de penser, c'est-à-dire des façons de penser qui ne sont pas scripturaires, par rapport à différents domaines de notre vie chrétienne,
eh
bien c'est comme si nous nous enfermons nous-mêmes dans une prison. Et c'est pour ça que Paul appelle ça une forteresse. Et c'est une prison
dont
il faut sortir. Une mauvaise façon de penser nous amènera à des mauvaises façons de réagir. Et la Bible nous en parle. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, littéralement métamorphosés, par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire des façons de penser.
Et
ici, l'image que la parole de Dieu nous donne, quand il est parlé de transformer, c'est vraiment l'image de la chenille. Et en fait, ça devient de beaux papillons. Quelque chose qui est moche, qui est laid, image de nos façons de penser avant d'être sauvés. Paul nous dit que nous devons nous épanouir, mais nous devons. Là encore, c'est notre responsabilité. Ne priez pas Dieu pour qu'il renouvelle votre intelligence. Parce que Dieu ne fera pas. Parce que la Bible nous dit que nous devons renouveler, changer nos façons de penser. Si tu penses que la maladie, c'est quelque chose avec lequel tu dois vivre, si tu penses que c'est ton compagnon de jour et de nuit, eh bien, tu as une mauvaise façon de penser. Il faut renouveler cela. Même chose pour la pauvreté. Même chose pour le trouble. Même chose pour la tristesse. Même chose pour tout ce qui peut s'opposer à une vie d'épanouissement. Quelle que soit la chose que tu peux nommer, que tu peux penser, si tu ne penses pas en accord avec la parole,
eh
bien c'est une forteresse dans ta tête. Et cette forteresse
Elle doit tomber. Elle doit tomber. Et la façon dont là, tu t'es emprisonné toi-même. Vous voyez la différence avec tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était des circonstances. Ou des choses. Qui étaient là et qu'on rencontre dans la vie. Des forteresses qui sont là, des mauvaises circonstances. Que nous pouvons abattre par notre foi. Là, ce sont nos façons de penser. On s'emprisonne nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à la liberté. Donc il va falloir sortir de cette forteresse. Comment? Au travers de la parole de Dieu. Au travers de la méditation de la parole de Dieu. C'est là où tu commences à être instruit dans la parole. Moi, je te suis toujours étonné de voir autant de gens qui fréquentent les églises dans cette région du monde et si peu qui s'intéressent vraiment profondément à la parole de Dieu. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. J'entends même certains pasteurs parler comme ça. Dire, non, une formation. Ah, non. Moi, je reçois tout dans l'esprit. Je prêche, j'enseigne comme ça de... des choses comme ça qui viennent de Dieu directement. D'accord. Ok, tant mieux pour toi. Mais la Bible nous montre des choses. Que Dieu a mis le ministère d'enseignement dans le corps de Christ et que nous avons besoin de recevoir des autres. Tout le monde a besoin de recevoir des autres. C'est tout à fait normal. C'est vraiment scripturaire. Le contraire ne l'est pas. Nous avons besoin d'être formés. D'abord en tant que ministère dans la parole de Dieu, mais aussi en tant que chrétien et de nouveau. Parce que nous avons besoin de connaître cette parole. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Josué. Qu'il devait méditer la parole. Qu'il devait toujours y penser. Et la mettre en pratique. Ça, c'est ce qui fera tomber ta forteresse de mauvaises pensées. Il y a des gens, par exemple, qui sont rebelles aux autorités spirituelles. Quand ils entendent des choses qui sont enseignées ou prêchées, ils disent, non, je suis pas d'accord avec ça. Ok. Forteresse dans ta tête. Si ça vient de la parole de Dieu et que tu refuses, et ça fait paf dans ta tête, ça veut dire qu'il y a une forteresse. Et cette forteresse, elle doit tomber. Tu dois dire non. Cette forteresse, et si la Bible me dit le contraire, je dois changer mes façons de penser. Il y a des gens, quand ils voient des manifestations du Saint-Esprit, ils disent non. Moi, je ne crois pas dans ces trucs-là. Forteresse dans ta tête. Si c'est dans l'écriture, il ferait mieux de te placer devant le Seigneur. Dire, Seigneur, éclaire-moi. J'ai besoin d'être illuminé dans mon cœur. Je veux connaître ta parole. Et si tu connais cette parole merveilleuse, c'est elle qui va faire abattre cette forteresse dans ta vie. Vous voyez des mauvaises façons de penser. La Bible nous montre que c'est aussi des forteresses. Maintenant, le troisième type de forteresse qu'il y a, c'est la forteresse de protection. Vous voyez la première forteresse, ce sont les circonstances qu'on peut rencontrer. Des conséquences parfois de notre vie passée ou des choses qui viennent comme ça contre nous. Par notre foi, en déclarant la parole, en priant notre Père Céleste, dans le nom de Jésus, connaissant notre autorité spirituelle, ces forteresses peuvent tomber. Et ces circonstances tombent. Et les choses sont changées par la puissance de Dieu. Ça, c'est le premier type de forteresse. Deuxième type de forteresse, ce sont nos façons de penser. Là, c'est nous-mêmes qui nous enfermons ou qui nous sommes enfermés dans des mauvaises façons de penser, peut-être dans de mauvais enseignements. Moi, parfois, quand j'entends certains chrétiens parler, je me dis, mais ces gens, ils n'arrêtent pas de parler des choses. Et vous avez entendu un certain nombre de fausses doctrines qui courent, où on essaye de vous dire qu'il faut aller chercher tous les péchés que vous avez fait avant et les écrire sur un cahier. Qu'après, on va vous délivrer. Forteresse.
Forteresse.
Il y a des gens qui partent complètement troublés avec ce genre de truc. Des gens qui disent, ah, pasteur. Paris, j'ai besoin de délivrance. Je dois avoir un problème. J'arrive pas à me sortir de telle et telle situation, j'ai besoin de délivrance. Est-ce que vous pratiquez la délivrance à la moulinette? Et des gens sont comme ça, forteresse. Mauvaise façon de penser. Et souvent, ces gens-là, quand on les confronte à la parole de Dieu, ils disent, non, moi de l'autre côté, on prêche ça.
Okay.
Va te faire enfermer dans les forteresses. Tu y resteras, et tu y seras malheureux. C'est ton problème. C'est pas le mien. Moi, je dois vous dire la vérité. Ce que la parole de Dieu dit. Après, ce n'est plus ma responsabilité. Par contre, cacher la vérité serait amener les gens dans des tromperies. Et ça, j'en serais responsable. Chacun sa responsabilité. Troisième type de forteresse, c'est là où nous pouvons nous mettre quand il y a une situation dangereuse. C'est notre protection. Et la Bible nous donne des superbes versets que nous devons vraiment connaître et apprendre. Proverbe 18-10. Proverbe 18-10. Dans le moment difficile, dans le moment du danger, il est bon de savoir où nous protéger. Proverbe 18-10 nous dit, le nom du Seigneur est une forteresse. Le juste y court et il trouve un refuge et il est hors d'atteinte.
Izina ry'Uhoraho n'umunara ukomeye, umugororotsi awirukiramwo akaba amahoro.
C'est une chanson que nous avons. Et qui est la confession d'une puissante vérité. Jésus est notre forteresse. Le juste s'y réfugie. L'homme qui connaît Dieu, la femme qui connaît Dieu, doit savoir que dans le Seigneur, il a sa protection. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des jours mauvais. Même pour les chrétiens. Regardons Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6 nous en parle. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc sachez une chose. Le jour mauvais peut arriver. Si le diable essaye de se déchaîner dans ta vie,
eh
bien, il faut que tu apprennes une chose. C'est à savoir te réfugier dans la forteresse du Seigneur. Savoir être sous sa protection.
Et rester
sous sa protection. Parce que cette forteresse, c'est pas un Jéricho. C'est pas une mauvaise façon de penser. Parce que ça, c'est des forteresses qui sont abattues. Mais il n'y a qu'une seule forteresse qui ne sera jamais abattue. Seule forteresse qui ne tombera jamais. C'est la forteresse du nom du Seigneur. Et cette forteresse-là, il faut que tu apprennes à te protéger avec, à te cacher dans cette forteresse. Parce que ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent connaître. Et vous savez, quand le jour est bon, c'est là où il faut s'entraîner. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est la panique quand il leur arrive un problème. Mais c'est pour ça, mes amis, quand le jour est bon, c'est le temps de se fortifier, le temps d'apprendre la parole, c'est le temps de connaître la présence de Dieu. Parce que quand le jour mauvais arrive, c'est là où tu es équipé. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand il y a des problèmes, vous les voyez courir à l'église, être là à toutes les réunions, à demander la prière partout, et quand Dieu commence à intervenir, bye bye, tutto subira. C'est grave. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Habituez-vous à être dans cette forteresse. À connaître cette forteresse merveilleuse. Cette protection superbe que Dieu nous offre au travers de son Fils Jésus-Christ. Puisque nous sommes là, c'est un abri. C'est une force. C'est un soutien. C'est une protection. C'est un refuge.
urufatiro.
Tout ça, c'est des définitions de ce mot forteresse.
Izo rero ni sobanuro z'iryo jambo urufatiro.
Et regardons le psaume 91.
Turabe Zaburi ya 91 na rimwe.
Psaume 91.
Zaburi ya 91 na rimwe.
C'est un magnifique psaume.
Iyo nayo ni zaburi nziza.
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous savons que cela, c'est l'image de quoi? De la présence de Dieu qui nous couvre. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Voyez, ça c'est bon comme confession à faire. À dire, Dieu, tu es ma forteresse. Tu es celui en qui je me confie. Les choses de la vie peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Bien des choses peuvent changer dans la vie. Mais toi, tu es un endroit sûr. Là où je peux me réfugier. Là où j'ai la paix. Là où au milieu de la tempête. Je sais que ça ne sera pas ébranlé. Et ici, cet homme de Dieu qui écrit ce psaume continue et explique un certain nombre de choses. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça, ce sont les pièges, les méthodes du diable pour essayer de faire tomber les chrétiens. Le filet, l'oiseleur, c'est quelqu'un qui met un filet. Comme un filet de pêche. Et l'oiseau vole tranquillement. Et il ne voit pas le filet. Et d'un seul coup, pouf, et il est prisonnier. Mais Dieu nous en délivre. Parce que Jésus est notre forteresse. Il est notre forteresse. De la peste et de ses ravages. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tout ce qui peut venir contre toi, tout ce que les autres peuvent avoir comme maladie, ne doivent pas t'atteindre. Mais ça,
il
faut que tu tiennes sur ta forteresse. Il faut que tu te réfugies en lui. Il faut que tu te réfugies en lui. En disant non, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si tous les autres ont la grippe, ou la malaria, ou le sida, ou tout ce que vous voulez, moi, je ne serai pas atteint. Parce que je me réfugie en lui. Parce qu'il est ma forteresse. Il est ma forteresse. Il dit au verset 6. Ni la peste, donc tu ne craindras ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Ça, c'est quelqu'un qui sait se protéger. C'est quelqu'un qui sait se protéger. Qui connaît cette forteresse. Qui est Jésus. Jésus est notre forteresse.
Si
tu es né de nouveau. Tu dois apprendre à te cacher en lui. À te cacher dans sa présence. À connaître ces choses. C'est au travers de ces choses que tu verras ta protection. Vous savez, on le dit souvent. Mais il est plus surnaturel de marcher dans la bonne santé divine que d'être trois fois guéri par le Seigneur tous les ans de la malaria. Je veux dire une chose. Si vous savez, des fois on entend des témoignages de gens qui ont été malades, y compris pour eux, et ils sont relevés de leur lit de mort. Gloire à Dieu pour ça. Mais le mieux, c'est de marcher dans la bonne santé. Tous les jours de sa vie, jusqu'au dernier jour, nous partirons auprès de lui. Ça, c'est mieux. Mais c'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Mais si tu sais te réfugier, c'est là où tu es protégé. C'est là où tu es protégé. Et il faut savoir ce que c'est. Parce qu'il est celui qui est notre refuge, qui est notre forteresse. Et ceci, je vous garantis, elle est complètement imprenable. Personne ne peut y toucher. Personne ne peut y toucher. Personne ne peut y toucher. Nous allons prier ensemble.